Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Xavier Martinet, Paloma Soria Brown et Izet Sikar. À la réalisation, Alexandra Candilonquet. À la technique, Nasser Moussaoui.
Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Rocchini.
C'est le dernier jour de notre série consacrée à un secteur invisible et néanmoins crucial dans nos économies mondialisées, la logistique. Après avoir embarqué à bord des trains de marchandises et observé les cuves de pétrole qui débordent, nous avons rendez-vous aujourd'hui dans un gigantesque supermarché virtuel. Les plateformes comme Amazon ou Cdiscount ont su tirer leur épingle du jeu pendant le confinement. Mais cette montée en puissance ne saurait faire oublier les innombrables métiers bien physiques que dissimule le capitalisme numérique. Vous écoutez France Culture et vous avez raison, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons passer de l'autre côté de l'écran en compagnie de nos deux invités. Bonjour Antonio Casilli.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur à Télécom Paris et auteur de cet ouvrage « En attendant les robots, enquête sur le travail du clic » paru l'an dernier aux éditions du Seuil. Avec nous également Philippe Askenazy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et directeur de recherche au CNRS. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette invitation à distance. Et d'abord, allons nous promener du côté du carrefour Mabillon dans le 6e arrondissement de Paris. En mai 1978, Georges Perec s'installe dans une camionnette studio de Radio France pour y décrire pendant plus de 6 heures le spectacle de la rue. Extrait.
574 camionnettes, dont entre autres 55 camionnettes de couleur bleue, 45 camionnettes des postes, 26 camionnettes de couleur blanche.
11h20. Passe un laveur de carreaux sur une mobilette. Il pleut de plus en plus fort. Il fait de plus en plus sombre. Des voitures et des taxis. Une fille avec une veste en fourrure. Un homme avec un chapeau genre tyrolien. Tout ça sous des parapluies. Une camionnette des PTT. À la poste, vous êtes chez vous. Une camionnette rouge, Europe Car, loueur de camion. Une camionnette venant de la rue du Four. Un taxi, un autre taxi, un troisième taxi, libre. Plein de voitures.
Plein de voitures, le carrefour Mabillon, vu par Georges Perec il y a 42 ans. C'est une bonne illustration, Philippe Askenazy, de ce qu'était la logistique urbaine, de ce à quoi ressemblait le spectacle de la rue avant l'invention des plateformes numériques.
Oui, certainement. C'est d'ailleurs une dynamique qui s'est poursuivie jusque au milieu des années 1990 et même à l'orée du millénaire actuel. Mais je ne suis pas si certain que l'on soit sorti de cette domination, en quelque sorte, d'une logistique par des petits véhicules, peut-être même bien au contraire. Avec l'irruption du e-commerce, on a eu une multiplicité d'acteurs, souvent d'ailleurs sous des statuts d'indépendants, d'auto-entrepreneurs, qui justement se retrouvent dans ces camionnettes de livraison, que ce soit pour des entreprises ou pour des particuliers. Il y a une sorte de grand cycle en quelque sorte dans la logistique, dans le commerce, que ce soit le commerce physique ou le commerce à distance.
Le spectacle de la rue pendant le confinement, Antonio Casilli, c'était en grande partie des livreurs, qu'ils soient à vélo, qu'ils soient à scooter ou en camionnette, et c'est le signe du succès et de l'importance grandissante de ce e-commerce que l'on a constaté pendant ce confinement.
Pendant le confinement, ce qu'on a vu, c'est des villes dans lesquelles les livreurs, les transporteurs, en gros, les personnes qui représentent le dernier kilomètre de la logistique, sont devenues visibles. Et ils ont pu aussi montrer qu'ils jouent un rôle essentiel. Et essentiel surtout parce que malgré l'effort des plateformes numériques à la Deliveroo ou à la Amazon de nous convaincre du fait qu'ils font du e-commerce ou du commerce immatériel ou qu'ils ont automatisé un certain nombre de tâches logistiques, finalement, un nombre vraiment important de ces tâches est encore réalisé par des personnes à la main ou même parfois à la jambe, parce que s'il s'agit par exemple de livrer à vélo, il faut effectivement pédaler.
On parle beaucoup d'économie de plateforme, mais comment est-ce qu'on peut définir une plateforme ? Comment un terme qui désigne une infrastructure s'est-il imposé dans l'économie digitale, Antonio Casilli ?
Alors, finalement, plateforme est un terme très ancien et qui, au début, désignait tout simplement une infrastructure, ou plutôt une structure, même d'un point de vue architectural. Très vite, avec l'arrivée du numérique, on a commencé à utiliser le mot plateforme pour indiquer une architecture logicielle. Donc là, le lien est fait, mais désormais, disons, ce terme est aussi utilisé au croisement entre l'économie industrielle et l'industrie du numérique, et l'économie du numérique pour désigner quelque chose de beaucoup plus complexe. D'abord, une plateforme est quelque chose qui est un peu un hybride entre un marché et une entreprise, une firme, au sens classique. Après, évidemment, c'est aussi une entité technique qui est capable de coordonner un écosystème d'acteurs disparates. Pensez encore une fois à Uber ou à Deliveroo, qui, grâce à son algorithme de tarification dynamique, arrive à coordonner des personnes qui sont prêtes à conduire, des chauffeurs et des passagers. Et ils arrivent à faire ça parce que ils captent aussi la valeur produite par des communautés de personnes qui sont autour ou sur ces plateformes. Alors, de ce point de vue-là, en effet, la plus importante captation arrive à travers la donnée, les données plutôt des utilisateurs et des producteurs qui sont rattachés à ces plateformes.
On va en reparler, Antonio Casilli, mais d'abord un dernier mot de vocabulaire. On parlait d'économie de plateforme, et on parle aussi d'économie du partage, d'économie collaborative, ou encore de gig economy. Cette multiplication des concepts illustre bien la difficulté à définir le phénomène, Philippe Askenazy.
Alors je ne le pense pas, hein. Je crois que cette multiplicité de vocabulaire correspond plutôt à une multiplicité d'approches, je dirais presque idéologiques, que l'on veut donner aux différentes évolutions que l'on connaît aujourd'hui. Si on prend la gig economy par exemple, qui est une contraction du mot engagement, qui est largement utilisé dans le monde anglo-saxon, elle renvoie à une époque qui était celle des années 1930 avec la création des premiers orchestres de jazz et c'est qui était fait par engagement. Les orchestres n'étaient pas stables, on engageait un trompettiste, un saxophoniste, etc. et on faisait comme cela un orchestre. Et donc on emploie le terme gig economy pour justement insister sur le fait qu'il n'y a pas de nouveauté. Il y a peut-être des nouveautés technologique, mais pas nécessairement un horizon qui n'aurait jamais été vu dans l'organisation du travail. Alors que vous voyez, par exemple, en France, on insiste beaucoup sur le terme ubérisation pour dire, voilà, c'est lié à une entreprise, d'ailleurs on fait la publicité à cette entreprise au passage, en soulignant que ça serait quelque chose de tout à fait nouveau et révolutionnaire. Donc derrière l'usage des mots, il y a en fait souvent des acteurs qui soit défendent que on est dans une forme de continuité d'aller-retour dans l'organisation de la production et du travail, ou bien ceux qui défendent qu'il y aurait un monde nouveau, et donc comme il y aurait un monde nouveau, il faudrait par exemple adapter le droit du travail à ce monde nouveau, en créant de nouveaux types de statuts, etc. Donc c'est par derrière les mots, il y a de vraies luttes plutôt qu'une question de véritablement définir le concept, ces transformations. Mais j'insisterai quand même sur le fait que l'irruption en elle-même du e-commerce ne doit pas faire penser que toute cette organisation logistique de plateforme n'était pas préexistante. Donc c'est un phénomène qui lui-même est ancien.
Un phénomène ancien, mais qui a pris de l'ampleur. Les plateformes numériques ont pris une place encore plus importante dans nos vies à l'occasion du confinement. Je le disais en introduction, pendant 2 mois, Philippe Askenazy, le commerce en ligne est finalement quasiment devenu le seul lien marchand avec l'extérieur.
Alors, je n'en suis pas totalement convaincu. Sur le commerce alimentaire, c'est exact que la crainte de contamination a joué sur une très nette augmentation d'une demande tournée vers des livraisons à domicile assurées par ces acteurs du commerce en ligne. Mais dans le même temps, du fait donc de la fermeture de toutes les restaurations collectives, c'est l'ensemble de la demande alimentaire qui a augmenté et ça a bénéficié aussi aux magasins physiques. Standard avec des clients qui a continué à aller dans les magasins. Et ce que l'on a vu aussi, c'est une multiplication d'initiatives individuelles, donc tel marchand de tel marché qui était lui-même fermé, qui a réussi à se recréer un réseau où des clients l'appelaient par téléphone, commandaient, effectuaient des livraisons de cajots, de cagettes. Donc il y a eu toute une forme d'invention qui potentiellement.
Il y a deux phénomènes, effectivement. Les circuits courts d'un côté et l'essor du e-commerce de l'autre. Mais sur ce e-commerce, peut-être, qui est vraiment notre sujet du jour, Antonio Casilli, ce qu'on peut dire, c'est que ces plateformes numériques ont peut-être touché une nouvelle clientèle, et notamment peut-être la génération X, c'est-à-dire ces gens nés entre 1960 et 1980.
Alors, c'est effectivement quelque chose qu'il faudra après vérifier d'un point de vue statistique, parce que cette génération-là n'était pas forcément non concernée par ce type de e-commerce. Il y a aussi le fait que parfois le e-commerce, surtout quand on parle surtout de livraison alimentaire, pendant les phases de confinement, a été capable de se réinventer comme un service sans contact. Et ce type de rhétorique marketing a été particulièrement efficace parce que, effectivement, si on pense encore une fois à la livraison de repas, normalement implique un contact. C'est-à-dire le moment de la remise de l'aliment dans la main propre du mangeur. C'est quelque chose d'intéressant.
Et toute la question... Toute la question, Antonio Casilli, c'est est-ce que ce changement de comportement des consommateurs va être durable? Est-ce qu'ils vont revenir dans les magasins pour les plateformes numériques? C'est un enjeu économique absolument considérable.
Oui, et c'est une question qui, par exemple, à mon avis, est aussi liée à la question plus vaste de que va rester de ce basculement vers les usages intensifs et dégradés, j'insiste, des plateformes numériques. Or, pour ce qui me concerne, il faut vraiment souligner un aspect qui a souvent été passé sous silence. Les plateformes ont travaillé, ont opéré pendant la période du confinement dans une modalité dégradée. C'est-à-dire, ils n'ont pas assuré un service optimal en termes de timing, en termes aussi de qualité du service. Donc, que ces usages de plateformes numériques se stabilisent, ce serait à mon avis une grosse surprise parce que ils sont pas en train d'assurer le meilleur service possible.
Oubliez les frontières, des douanes sans s'en faire, c'est la logistique.
Le chant à la gloire de la logistique de l'entreprise de transport UPS. Un clin d'œil pour dire que derrière cette économie des plateformes, il y a toute une organisation qui a été mise au défi pendant le confinement, Philippe Askenazy, à commencer par la livraison.
Oui, tout à fait. Déjà, il faut avoir conscience que ils ont eu une perte de toute une série briques de la stratégie logistique et notamment en bout de ligne. Là aussi, Antonio Caselli avait parler de cette visibilité des livreurs, elle a été en quelque sorte amplifiée parce que ces livreurs sont allés souvent jusqu'à votre domicile, alors que il y avait auparavant la possibilité de d'agrégation au sein des points relais qui étaient extrêmement utilisés par les consommateurs et aussi par les sociétés de logistique parce que ça permettait de réduire leurs coûts, de limiter les déplacements. Donc elle a été, une des premières difficultés a été la disparition de l'ensemble de ces points relais en bout de ligne. Et puis, si on remonte toute la chaîne logistique, une chaîne extrêmement longue, eh bien, il y a eu des difficultés à chacune des étapes liées à des problématiques sanitaires, des problématiques de salariés absents parce qu'ils devaient soit respecter une quatorzaine sanitaire, soit s'occuper de leurs enfants. Ensuite, il y a eu, si on remonte, les fermetures partielles de frontières qui ont posé dans une économie largement dominée par les flux. C'est ça la logistique aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est peut-être là le point le plus fondamental à travers ce qu'on peut qualifier de plateformes, que ce soit les plateformes logistiques ou le e-commerce, c'est que les stocks ayant très largement disparu, c'est même la promesse de cette logistique moderne, eh bien, dans une mécanique qui est uniquement en flux, dès qu'on a un barrage, en quelque sorte, qui apparaît à un moment, ou un goulot d'étranglement, eh bien, l'ensemble du système est grippé. Et là aussi, si vous voulez, c'est peut-être des leçons qui vont être tirées de cette crise, c'est l'extrême fragilité de cette logistique de flux, et peut-être là, on va connaître à nous une forme de retour en arrière ou une recomposition d'une certaine forme de stock va être nécessaire pour les acteurs.
Et il y a aussi eu des goulots d'étranglement sur Internet, Antonio Casilli, au point que de nombreuses plateformes ont dû réduire leur débit.
Tout à fait. Alors, il y a eu, en effet, des moments qui ont été gérés de manière assez rapide. Par exemple, si on pense à certaines plateformes de télétravail comme Teams de Microsoft, au début du confinement dans des pays européens, donc on pense à l'Italie, la France, l'Espagne, l'Irlande et en partie d'autres pays, effectivement, qui sont entrés plus ou moins tous ensemble, ou alors avec un peu de décalage, dans une phase de confinement, on a vu effectivement des difficultés. Mais ça, c'est quelque chose qui, en effet, est un peu le reflet de ce qui s'est passé dans la logistique matérielle des produits, finalement, et qui renvoie aussi à l'importance de l'intervention humaine dans ces chaînes logistiques. Si on pense, par exemple, à ce qui s'est passé dans les centres de distribution ou dans les entrepôts de Amazon, là aussi, on a assisté à des moments de bouchons ou de goulots d'étranglement qui sont aussi dus au fait que les travailleurs sont entrés en grève ou ont organisé des manifestations pour défendre leur droit à la sécurité sur le travail, à effectivement la protection avec des gants, des masques, des visières et ainsi de suite, qui n'ont pas des règles qui n'ont pas été respectées au début par Amazon et par d'autres plateformes de ce type.
On va y venir, Antonio Casilli. Non seulement nous consommons à distance, mais nous travaillons également de plus en plus à distance. Écoutons sur ce point la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. C'était le 20 avril dernier.
Dans les ordonnances travail de 2017, moi j'avais introduit le droit au télétravail. Mais évidemment, on n'aurait jamais pensé que ça puisse servir à une telle échelle aussi vite. Là, actuellement, il y a un salarié sur quatre, c'est-à-dire à peu près 5 millions de salariés du secteur privé qui aujourd'hui, avec le confinement, travaillent en télétravail chez eux. Je pense que cette expérience de plusieurs semaines, qui s'est fait un peu sur l'aile dans certaines entreprises, mais maintenant est une expérience vécue par des millions de salariés et par de très nombreuses entreprises, re-questionne l'utilité de certains déplacements, la réunionite qu'on a parfois, des modalités de travail qui sont pesantes, le temps des transports. Ça repose beaucoup de questions et il y a beaucoup de mix entre télétravail et travail présentiel. On peut faire un mix des deux. Je crois d'ailleurs que la reprise va se faire avec plutôt des rotations d'équipes et en matière du télétravail. Moi, je lance un groupe de travail, un peu de prospective là-dessus, sur comment le rapport au travail va être aussi, lui aussi, bousculé et l'organisation du travail bousculée par cette expérience que nous aurons vécue tous pendant quelques semaines.
Le confinement a donné lieu à une expérience inédite de télétravail à grande échelle, ce qui pose deux questions, Philippe Askenazy. Est-ce que ça va durer et est-ce que c'est un progrès ?
Oui, ce sont deux questions majeures. Alors déjà, il y avait eu une première forme d'expérience de télétravail, d'accélération avec les grèves dans les transports, notamment en Île-de-France, donc à peine quelques semaines avant la crise sanitaire que nous vivons. Alors, pour l'instant, on n'a pas véritablement de recul suffisant pour à la fois apprécier qui a pu bénéficier de ce télétravail, c'est-à-dire quantitativement. Est-ce que véritablement les chiffres qu'avance la ministre sont exacts ou non ? Je vous avoue qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Et puis, parmi les personnes qui ont été en télétravail, celles qui ont pu l'apprécier ou au contraire en souffrir. Les premiers signaux que l'on peut avoir montrent quand même un différentiel très très important entre les hommes et les femmes, où finalement la femme en télétravail s'est retrouvée, notamment c'est dans des familles avec enfants, à devoir assumer une charge familiale de tâches ménagères bien plus importante tout en télétravaillant. Donc je ne suis pas certain que cette expérience en quelque sorte de ce télétravail sous très forte contrainte soit été bien vécue par ces femmes et leur donne envie de rester sur leur feu dans leur foyer. Donc ça, c'est un exemple en quelque sorte qui irait dans le sens d'un télétravail subi et éventuellement de souffrance. Et à l'opposé, c'est possible que typiquement des cadres qui ont pu se mettre au vert apprécient ce nouveau type de mode de vie. Mais je crois qu'au bout du bout, la véritable réponse sur est-ce qu'il y aura développement ou pas du télétravail sera donnée par les entreprises. Est-ce qu'elles ont considéré que c'était un outil qui leur permettait d'avoir une productivité suffisante ou non, c'est ça qui décidera l'avenir du télétravail. Ce que l'on peut constater, nous...
Mais est-ce que ce développement... Oui. Je vais faire intervenir simplement Antonio Casilli. Est-ce que ce développement du télétravail pourrait changer notre rapport au travail ? Et qu'est-ce que vous pensez de ces effets ? Est-ce qu'il faut parler d'un télétravail subi ou d'un télétravail libérateur, Antonio Casilli ?
Alors... C'est un télétravail qui, d'un certain point de vue, n'en est pas un. C'est-à-dire que, pour l'instant, il cherche encore à imiter, à simuler certaines modalités du travail présentiel. Du moins, c'est l'expérience qui est relatée pendant la phase de confinement. D'abord, du point de vue strictement quantitatif, on ne peut pas parler d'une généralisation du télétravail. Encore une fois, oui, bien sûr, Philippe Askenazy rappelle que les chiffres ne sont pas encore solides, robustes, mais en même temps, on commence à voir grosso modo que ce télétravail ne concerne pas plus que 25% de la force de travail dans les pays dans plusieurs pays finalement, parce que c'est grosso modo le même chiffre pour la France, pour les États-Unis et même pour certains pays de l'Amérique du Sud comme l'Argentine dans laquelle on a pu effectuer des enquêtes. Alors après, la question est que c'est un télétravail dans lequel on cherche à répéter exactement toutes les activités qu'on réalisait auparavant en présentiel. Je vous donne l'exemple. Muriel Pénicaud parlait du fait que ce télétravail représentait un peu limité, un peu bridé, un peu la réunionite aiguë. Moi, je crois au contraire que les entreprises, pendant le confinement, ont cherché à maintenir un rythme de rencontres parce que, justement, ils n'ont pas changé la logique qui était avant tout une logique présentielle qu'ils cherchaient à répéter pendant le confinement via le télétravail. Et donc on a vu aussi une multiplication, que sais-je, de moments informels qui ont certes un rôle important dans un travail présentiel, grosso modo, dans un bureau, bien sûr, il faut se trouver autour de la désormais mythique machine à café, ou alors pendant des pots et ainsi de suite. Mais on a cherché à répéter ça pendant le confinement via le télétravail, en faisant donc les Zoom apéro ou les apéros Skype ou les réunions le café virtuel et ainsi de suite, ce qui a provoqué encore une fois une surcharge cognitive et même en termes d'usage qui a largement dégradé la qualité de ce télétravail. D'autant plus
Philippe Askenazy, vous diriez vous aussi, pardon, Philippe Askenazy, vous diriez vous aussi que finalement le télétravail ne change pas tellement le rapport au travail?
Ben, écoutez, non, mais de fait, parce que les entreprises n'avaient pas penser ce télétravail, c'est-à-dire que c'est un télétravail qui a été imposé du fait du confinement, et donc il y a eu une volonté effectivement d'une forme de continuité de l'organisation productive, et même bah, finalement puisque les collaborateurs étaient disponibles, puisque bloqués chez eux, il est fort possible, étant donné l'usage massif des outils d'organisation de réunion, hein, que ça soit les Zoom, etc. Eh bien, que cette question de réunionnite, elle n'a jamais été en quelque sorte aussi aiguë que pendant cette phase de confinement. On le voit même du côté du monde du redémarrage, pendant la phase de redémarrage. Vous voyez, la dernière semaine avant ce 11 mai, dans tout le, en tout cas pour ce qui concerne l'État, le redémarrage de l'État, le redémarrage des écoles, des différentes administrations, etc., eh bien, on n'a pas télétravaillé, on a fait que des échanges souvent non physiques, mais qui ne faisaient que mimer ce qui aurait été réalisé dans des locaux. Et d'ailleurs, certains outils professionnels classiques de télétravail sont des outils où justement on met les personnes comme s'ils étaient dans une salle virtuelle qui ne fait que mimer le monde réel. Donc, on est tous les deux, je pense, pas nécessairement convaincus que là, on est une vraie nouveauté qui aurait dû être en fait une recréation du travail, une nouvelle réflexion. Il n'y avait pas le temps pour cela.
Une nouvelle réflexion qui reste encore à mener. En tout cas, les applications de télétravail et les plateformes numériques ont tout de même pris une importance particulière dans nos vies à la faveur de ce confinement. Mais cette économie des plateformes doit sans doute être mieux régulée aujourd'hui. On en parle dans un instant. Amazon Pirates par The Divine Comedy. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie du sociologue Antonio Casilli et de l'économiste Philippe Askenazy pour parler du triomphe des plateformes lors du confinement. Triomphe que nos invités relativisent, on l'a entendu. Alors ces plateformes dissimulent quantité de métiers dans les entrepôts, sur Internet, tout au long des étapes qui mènent à la livraison finale. Des métiers particulièrement exposés aux risques sanitaires, Antonio Casilli.
Oui, avec quand même des différentiels assez importants. Bah, tout d'abord, il faut rappeler que même si on a présenté les phases de confinement dans les différents pays comme un moment dans lequel l'activité s'est interrompue ou alors s'est sédentarisée via le télétravail, énormément de personnes ont continué à travailler à l'extérieur, hors domicile. Et c'est pas seulement les 25% aussi de salariés qui ont continué à réaliser des métiers de proximité comme de la grande distribution ou évidemment dans les hôpitaux et ainsi de suite. Il y a évidemment les travailleurs des plateformes qui ont continué à réaliser effectivement ce que on peut définir comme les métiers du dernier kilomètre de la logistique. Donc on en a déjà parlé, on a parlé effectivement des livreurs, des transporteurs, mais il y a aussi toute une autre catégorie de personnes qui sont les derniers, le dernier kilomètre de la donnée et de l'automatisation. Et eux aussi sont exposés à des risques de type particulier.
Alors on va y venir, Antonio Casilli, vous parlez des micro-travailleurs du web, mais on va y venir dans un tout petit instant. Les failles de sécurité, c'est aussi ce qui a obligé Amazon à fermer le 16 avril 6 centres de distribution en France. C'est une décision de justice qui lui avait en effet imposé d'évaluer les risques liés à l'épidémie de Covid-19. Pour les syndicats, c'est une victoire, Philippe Askenazy?
Alors je ne sais pas si c'est une victoire pour les syndicats, c'est plutôt une victoire pour les travailleurs. C'est-à-dire que au-delà même de la question des travailleurs des plateformes, on a vu dans cette crise sanitaire un échec des politiques de prévention, les très grandes difficultés pour les entreprises de mettre en œuvre des mesures de sécurité minimale pour leurs salariés. Donc dans une perspective,
sachant qu'il faut préciser que c'est le cas en France, mais aussi aux États-Unis par exemple. Il y a
bien
eu
sûr,
des,
non, non,
des
mais
grèves
c'est
également
pas...
aux États-Unis.
Oui, oui.
Dans des entrepôts Amazon.
Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas que Amazon, hein, d'ailleurs, qui est dans le collimateur. Hein. Il ne faut pas faire un anti-Amazon absolu. Amazon, par son gigantisme, en quelque sorte, est une forme de symbole. Mais la difficulté est généralisée et les fermetures d'usines se voient à travers le monde, énervant. Vous voyez, par exemple, Elon Musk s'énerve que la Californie ait fermé ses usines Tesla. Menace de délocaliser. Donc c'est plutôt le fonctionnement d'un capitalisme qui finalement considère le travailleur comme un input au même titre que voilà un pur facteur de production et pas un humain. Et
c'est en effet la précarité de ces travailleurs, Philippe Askenazy, qui les empêche d'exercer un droit de retrait ou de bénéficier du chômage partiel, par exemple.
Alors, dans le cas d'Amazon, de ne pas pouvoir bénéficier du chômage partiel, c'est pas ni du fait d'Amazon, ni du fait des salariés, mais une décision du ministère du Travail, parce qu'il considérait qu'il n'y avait pas de raison que cette entreprise qui avait encore des commandes puisse prétendre au chômage partiel, le chômage partiel qui est lié à un arrêt brusque des activités. Là, en l'occurrence, c'est
l'impéritie. Mais tous ceux qui n'ont pas le statut de salarié ne peuvent pas en bénéficier de toute façon.
Oui, tout à fait. Mais là, c'est l'impéritie de ces entreprises qui leur vaut leurs difficultés aujourd'hui. Et donc, je crois que c'est quelque chose qu'elles ont fini par comprendre. Hein. Lorsqu'on regarde les annonces en termes de profits d'Amazon, ces profits vont pas du tout être spectaculaires, même en légère diminution, parce qu'il va dépenser à travers le monde, et pas particulièrement en France, des sommes absolument considérables pour protéger ses salariés. Il a compris que, ben voilà, il y avait aussi des humains au sein de l'ensemble de sa mécanique logistique. Et c'est ça qu'il faut, la grande bataille qui va se jouer aujourd'hui, c'est de savoir si on va continuer à avoir cette prise en compte de l'humain comme pièce essentielle dans la production, ou si on va très rapidement, au nom de, par exemple, mener la bataille économique, en revenir et finalement considérer que c'est aux travailleurs de s'adapter.
La précarité des livreurs, la question du statut, c'est le sujet du dernier film de Ken Loach dans son dernier film Sorry We Missed You. On en écoute un extrait.
Have you ever been on the dole?
No. No. I've got my pride. I'd rather star first.
Music to my ears, Ricky. Henry was right. You are a trooper.
T'as déjà touché le chômage?
Non.
Non, 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 non. J'ai ma fierté. Ah non, plutôt crever.
Ça fait plaisir à entendre, Ricky. Henri avait raison, t'es un battant. Bon, avant de commencer, clarifions quelques détails, si tu veux bien. T'es pas embauché, ici. Tu montes à bord. Nous, on dit que tu viens embarquer. Tu travailles pas pour nous, tu travailles avec nous. Tu conduis pas pour nous, t'es prestataire de service. Y a pas de contrat de travail, pas d'objectif de rendement ou autre, tu respectes des normes de livraison. T'as pas de salaire, mais des honoraires. C'est clair?
Oui.
Bien clair?
Oui, 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 c'est clair, ça a l'air chouette, oui.
Pas de pointage, tu te rends disponible. Tu signes avec nous, tu deviens chauffeur-livreur propriétaire franchisé. Tu prends en main ton destin, ça fait la différence avec les losers, tu deviens un guerrier. T'es partant?
Oui, j'attends ce genre d'opportunité depuis une éternité.
Philippe Askenazy, que vous inspire cet entretien d'embauche qui ne dit pas son nom?
Oui, 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 ce film est marquant. Alors, il est en lui-même ambigu. En même temps, il correspond à une situation du monde du travail un petit peu constante, qui est celle que au sein du salariat, il y a une forme de, pour une part, même en France, c'est de l'ordre de 30 à 40% des personnes, une forme de ras-le-bol de la subordination et une volonté de créer sa propre entreprise. C'est très spectaculaire, hein. Il y a donc une grosse minorité dans la plupart des pays de l'OCDE de salariés qui voudraient être à leur compte. Et c'est sur ce besoin, en quelque sorte, d'échapper à la subordination qu'ont pu surfer des acteurs des plateformes dites numériques et de la logistique. Et donc, dans le cas du film de Ken Loach, c'est un de ces types d'acteurs qui, vous voyez, utilise cette personne qui dit « je veux pas toucher le chômage, je veux être à mon compte, etc. » pour mieux pouvoir l'exploiter. Mais d'une certaine manière, le film est déjà daté dans le sens que il y a eu des décisions de justice à travers le monde qui ont bien montré que finalement, ce type de travail présenté comme indépendant, eh bien, ne l'était pas, comme d'ailleurs le démontre ce petit interview d'embauche où finalement
des décisions de justice, mais rien n'est encore fait. Philippe Askenazy, c'est la plupart des livreurs aujourd'hui de ces plateformes n'ont toujours pas de statut de salarié et subissent toujours cette pression temporelle permanente que le film de Ken Loach met très bien en valeur.
Tout à fait, mais lorsque j'insistais sur le fait au départ qu'il y avait tant de personnes qui voulaient être à leur compte, c'est que au sein même du monde salarié, eh bien, il y a des pressions de travail, des contraintes qui sont extrêmement forte. Que la logistique soit sous une forme salariée ou sous une forme indépendante, on va retrouver les mêmes types de contraintes. La différence, elle est essentiellement sur un phénomène de coût du travail, c'est-à-dire que lorsque vous êtes salarié, eh bien vous avez, que ce soit en Grande-Bretagne ou en France, un salaire minimum, il y a des cotisations sociales, tout cela est bien plus onéreux que de recourir à un statut d'indépendant. Donc c'est pas une problématique de pression sur les personnes, pas une problématique de conditions de travail, pas de problématique de traçage des individus, mais plus une question de au moindre coût et de faire le maximum de profit, vous voyez, de manière low cost. Donc, oui, ça n'a alors, ces décisions de justice, etc., ne résoudront qu'une partie du problème.
La précarité des livreurs est maintenant assez bien connue, mais il y a toute une catégorie de travailleurs dont on parle beaucoup moins. Ce sont ces micro-travailleurs du web que vous avez étudiés dans votre dernier livre, Antonio Casilli. En quoi consiste leur travail ?
Alors, c'est un travail qui, finalement, est un travail de préparation de données et de triage tri de l'information, on va dire. En gros, il s'agit, que sais-je, de étiqueter des images, de regarder des extraits de vidéos ou d'écouter des petits fichiers audio et de produire, que sais-je, des tags, donc des qualifications pour ces contenus. Et cela sert à quoi ? Bah, à produire des métadonnées qui, par la suite, sont utilisées pour calibrer des intelligences artificielles, des algorithmes. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, le machine learning, qui fait fonctionner le numérique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et c'est un processus qui demande énormément d'intervention humaine. Et on a aussi des manifestations qui sont un peu plus terre à terre, hein. Les personnes qui trient l'information, qui filtrent l'information sur les grandes plateformes de contenu comme YouTube, comme Facebook, eux aussi font ce type de micro-travail, mais qui est plutôt connu comme un travail de modération.
Et alors, ces travailleurs du clic sont en général invisibles, Antonio Casilli. Est-ce que vous expliquez, c'est qu'ils touchent en moyenne 21 € par mois?
Bon, là, vous faites référence à une étude qui était seulement pour la France et qui, en plus, concernait, ce chiffre concernait une seule plateforme française, qui est une plateforme, certes, assez centrale dans l'écosystème français, mais en effet, c'est une manière de dire qu'il ne s'agit pas, dans la plupart des cas, d'un revenu primaire, mais qui est pourtant un revenu nécessaire, parce qu'il s'agit souvent de personnes déjà marginalisés dans le monde du travail, personnes qui viennent de milieux modestes, parfois des femmes seules qui s'occupent de ses enfants, et qui ont besoin de ces quelques dizaines d'euros. Après, ces rémunérations peuvent être beaucoup plus faibles que cela, si on va regarder dans des pays tiers, dans des pays émergents ou en voie de développement, dans lesquels effectivement déjà le fait de pouvoir gagner dans certains pays 40 ou 80 euros par mois est correspond à un salaire moyen dans certains de ces pays, si on pense à l'Afrique ou certains pays d'Asie.
Je voudrais vous faire entendre le témoignage de Nathalie, 42 ans, qui est devenue micro-travailleuse pour Google après un divorce et 12 années passées à s'occuper de ses enfants. C'est un extrait d'une web-série documentaire réalisée par Henri Poulain et qui s'est appuyée sur vos travaux, Antonio Casilli, une web-série qui est accessible sur le site internet france.tv/.
À force de travailler, de faire par exemple la même tâche pendant une heure, deux heures d'affilée, on devient un peu robotisé. Alors je n'ai pas de contrat réel. À tout moment, je peux m'arrêter de travailler d'ailleurs sans les prévenir, chose que bien évidemment je ne ferai jamais. Comme eux-mêmes peuvent stopper la collaboration quand ils le souhaitent, sans préavis. Concrètement, je n'ai pas le droit d'en parler, je n'ai pas le droit de témoigner, je n'ai pas le droit de travailler dans les endroits publics. Personne ne doit être témoin de ce qu'on fait. Et le stress voilà, vient aussi parce qu'on ne sait pas si à la fin de la semaine, on aura fait toutes les heures finalement qu'on avait prévues dans sa tête de faire. Voilà. Je n'ai jamais rencontré les gens pour lesquels je travaille. Tout s'est fait par Internet. Je n'ai jamais parlé à personne non plus, d'ailleurs. En 3 ans et demi de travail.
Ce qui ressort de ce témoignage, Antonio Casilli, c'est la difficulté de ces travailleurs du clic à faire valoir leurs droits.
C'est la difficulté à faire reconnaître que leur travail est un véritable travail, un travail nécessaire pour faire exister le numérique tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais en particulier pendant les phases de confinement, ces travailleurs se sont retrouvés face à une situation extrêmement complexe. Complexe dans la mesure où, pour certains d'entre eux, c'était un moment de visibilité inattendue. Là, je pense aux modérateurs. Les modérateurs, à la différence de la personne dont on a entendu le témoignage maintenant, ne peuvent pas travailler depuis chez eux. parce que ils gèrent des données sensibles, parce que ils sont tenus à des règles assez draconiennes de respect de la confidentialité et de la propriété intellectuelle de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, et donc ils doivent se rendre sur leur lieu de travail. Et donc dans ce contexte-là, c'est devenu impossible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire les entreprises, les plateformes comme YouTube, mais aussi comme Facebook, mais aussi comme Netflix? Eh ben, à un certain moment, ont dû réduire l'activité de ces personnes et en reconnaître par la même occasion l'essentialité. C'est le moment où Twitter, YouTube, Netflix ont commencé à dire « Chers clients, nous avons un problème. Nous avons un problème parce que finalement, nos vidéos sont moins modérées qu'avant. » Parce que figurez-vous, c'était pas des intelligences artificielles filtraient les contenus qui n'étaient pas adaptés.
Ou alors, et on devrait en voir les effets dans les... Dans les prochains mois, on devrait en voir les effets dans les prochains mois, Antonio Casini.
Ah là là, je crois que là on le voit déjà. si on regarde le ton et le niveau d'agressivité sur certains de ces plateformes sociales, je pense que c'est assez visible.
Et puis il y a ceux qui sont rémunérés pour ce travail du clic, même si on a vu que ces rémunérations étaient extrêmement faibles, et ceux qui le font gratuitement en quelque sorte, puisque ce que vous expliquez, Antonio Casini, c'est que finalement certaines plateformes font de tous les utilisateurs des travailleurs du clic.
Oui, ou alors font de tous les travailleurs des utilisateurs. Bon, c'est le cas par exemple de Amazon. Encore une fois, c'est pas pour faire du anti-Amazon de base, mais Amazon a été toujours à l'avant-garde dans la mise en place de services de plateformes cloud qui étaient basées sur une forte intervention humaine de micro-travailleurs. On pense à Amazon Mechanical Turk qui existe depuis la moitié des années 2000 et en particulier sur ces plateforme, les travailleurs sont définis comme des participants. Et alors, donc, de ce point de vue-là, effectivement, on se retrouve dans une situation de flou artistique, même d'un point de vue contractuel, qui est entretenu par ces plateformes, mais qui se heurte là aussi, même pour ces travailleurs du dernier kilomètre de l'automatisation, à des décisions de justice particulièrement lourdes de conséquences des derniers temps, des derniers mois en réalité, qui commencent désormais à cibler des plateformes de micro-travail en disant « Vous ne pouvez pas dire que ces personnes-là sont des simples utilisateurs, comme s'ils étaient des personnes qui regardent une vidéo YouTube, parce que finalement, ces personnes doivent être reconnues plutôt comme des salariés, et à la limite, doivent être reclassifiées comme des salariés. » Et donc, si vous voulez, le raisonnement en miroir de cela est que, effectivement, les consommateurs aussi, ou alors les utilisateurs lambda aussi, réalisent un travail de enrichissement, un travail de production de contenu. Bon, si on pense effectivement aux plateformes qui sont basées sur des user-generated content, donc des contenus générés par les utilisateurs, c'est déjà le cas. En plus, ces personnes-là réalisent elles aussi, comme les micro-travailleurs, un travail de production de données, annotation de contenu, production de métadonnées qui permettent effectivement la mise en place de ce processus automatique dont je parlais au début.
Les micro-travailleurs sont essentiels dans le modèle économique des plateformes, Philippe Askenazy. C'est ce qui permet à certaines d'entre elles d'être très rentables. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur modèle économique ?
Au-delà des plateformes, c'est l'ensemble du développement des technologies autour de l'intelligence artificielle qui dépend de ces micro-travailleurs. Dans le témoignage que vous aviez, c'était la dame se disait être robotisée, mais justement les robots ne savent absolument pas faire ce que elle effectuait. Donc ils sont absolument essentiels pour la création et le fonctionnement de ces technologies aujourd'hui, dont évidemment se nourrit ensuite le e-commerce et l'ensemble des plateformes numériques. Alors pour aller dans le sens d'Antonio Casini, il commence à y avoir des travaux en économie qui essayent de voir quel devrait être le niveau de rémunération de ces personnes, et ce qu'on a comme premier signaux, c'est qu'elles ne reçoivent que 20% de la richesse qu'elles créent. Un travailleur standard, eh bien, il reçoit à peu près dans la plupart des pays entre 50 et 60% de la richesse qu'il crée. Le reste reste revenant au capital. Là, dans le cas du micro-travail, les premiers éléments statistiques que l'on a, c'est à peine 20% pour le travailleur. Et c'est pour cela d'ailleurs que les entreprises veulent les rendre les plus invisibles possibles. C'est que le moins on sait qu'ils existent, le mieux on va pouvoir en tirer des bénéfices très très importants et très significatifs. Donc il faut avoir bien conscience que cette économie qu'on dit être virtuelle est avant tout une économie qui repose sur le travail, que ça soit la sueur, la prise de risque des travailleurs physiques de la logistique, comme de l'attention et de l'importance de la charge mentale des travailleurs du clic.
Ça nous apprend, ça nous en dit beaucoup aussi sur le pouvoir des géants du numérique, notamment face aux États. Est-ce que c'est lié aussi, Philippe Askenazy, au fait que ces plateformes numériques ont tendance à devenir monopolistiques ?
Alors, elles ont plus que tendance, elles sont quand même souvent dans des positions monopolistiques et même la crise.
Mais c'est inscrit dans leur modèle économique.
C'est une mécanique un petit peu de base. Lorsqu'on a ce qu'on appelle des réseaux, il y a des externalités qui font que le premier acteur qui va sur un marché et qui arrive avec la bonne technologie va être en capacité d'attirer le plus de consommateurs, de clients en général, de devenir central. Il va avoir une capacité d'éventuellement racheter des concurrents plus petits qui émergeraient. Et jusqu'à présent, les États ont très peu réagi, un petit peu les autorités de la concurrence, mais de manière très très limitée. Et je vous avoue que je suis personnellement très très surpris que finalement on applaudisse dans certains pays l'alliance qu'il y a entre Google et Apple pour proposer une solution clé en main pour un système de traçage des contacts entre des personnes éventuellement contaminées et des personnes non contaminées par le coronavirus, alors même que ces deux acteurs sont en train de se mettre ensemble pour devenir totalement hégémonique sur un événement. Si on croit à un traitement de l'utilité d'un outil numérique pour lutter contre la pandémie, eh bien, il risque d'être dans la main d'un duopole mondial. Et donc, voyez, ces acteurs-là sont dans les faits de plus en plus sont dans les starting blocks pour être encore plus dominants que ce qu'ils étaient auparavant.
Antonio Casilli, ces outils numériques censés accompagner le déconfinement risque de donner encore plus de pouvoir aux géants du numérique si elle devait prendre en charge ces missions de tracking.
Oui, mais j'ai aussi envie de compléter ce que Philippe Askenazy a introduit, et dont je suis largement d'accord avec lui. J'ai envie de le compléter en disant que le problème n'est pas seulement représenté par les géants industriels en général américains. Ce type de risque, on l'a aussi dans le cas de la France, qui a pris jusque-là une décision qui est largement divergente par rapport à d'autres pays, c'est-à-dire de s'appuyer sur une technologie souveraine. Donc c'est cette application qu'on appelle Stop Covid, qui normalement devrait être développée par un pool de entreprises bien de chez nous. Et donc on y voit les Dassault, les Orange, les Thales. Donc le problème, à mon avis, est que ces technologies en soi mettent les citoyens que nous sommes dans une situation qui est extrêmement difficile de choisir finalement entre un risque de captation politique et aussi économique de la part de géants américains, ou alors de se retrouver dans ce type de réaction souverainiste économiste à la française, hélas, qui est tout aussi dangereuse comme attitude, parce que grosso modo cela vient à dire: ah, c'est terrible ce que Google et Amazon et Apple font, il faut vite faire exactement la même chose mais avec des entreprises de chez nous. Le problème, si l'on veut, c'est exactement
alors que la question de la protection des données demeure.
Oui, non, oui, mais justement, mais la question de la protection des données se pose de manière aiguë, que ce soit avec Apple et Google ou avec Orange et Dassault. Et donc la question devient aussi quel est le rôle qu'on accorde, qu'on laisse ces plateformes ou ces grandes entreprises prendre d'un monde dans nos vies, rôle en termes, par exemple, de gestion de nos finalement de nos possibilités de déplacement, de notre possibilité de travailler et dans certains cas même la possibilité d'accéder ou pas à certains droits qui sont des libertés liées à des libertés publiques. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse largement le risque d'un oligopole ou d'un monopole.
À l'heure où on dit beaucoup que les géants du numérique ont plus de pouvoir que les États et que les États ont beaucoup de mal à les réguler, quel rôle, selon vous, Philippe Askenazy, les pouvoirs publics peuvent-ils encore jouer ?
Ah bah, ils ont toute leur place, hein. Il faut mais il faut que les années la volonté. Donc je crois que aujourd'hui, enfin, si on se met dans une perspective où on veut penser en quelque sorte un monde d'après, c'est déjà avoir au niveau de la société une expression des demandes, des exigences de comment on veut organiser l'économie. Et donc à partir de là, on pourra construire des régulations qui vont coller à ces demandes sociales. Donc, je pense que au jour d'aujourd'hui, je vais pas vous dire il faudrait faire cela ou il faudrait faire ceci. Je pense que au sortir du choc que nous connaissons aujourd'hui, il faut faire en quelque sorte un état des lieux des échecs qui ont été révélés, des difficultés que la crise a fait non pas apparaître, mais a servi de loupe grossissante, et à partir de ce constat, quelle société nous voulons, quelle économie nous voulons, et l'État aura toute sa place. On n'est pas en fait dépendant de ces technologies, on n'est pas dépendant de ces acteurs du moment que l'on veut se donner les moyens, les capacités de réguler. Ce qui est assez frappant, c'est que lorsqu'on va outre-Atlantique, il y a des débats extrêmement puissants dessus, y compris juridiques, des volontés de démantèlement des géants du numérique, et donc une attitude qui est nettement plus proactive et moins un constat que l'on serait écrasé comme ce que l'on prétend aujourd'hui en France.
Il faudrait ouvrir le débat sur le rôle et la place de ces plateformes dans nos économies, Antonio Casilli, et ce sera le mot de la fin.
Ah, il faudra surtout, inviter les plateformes à jouer de manière correcte, autant sur un plan économique que sur un plan légal, que sur un plan politique, reconnaître effectivement que la plupart des traitements de faveur qu'elles ont reçus pendant les dernières années étaient aussi liés à leur forte activité de lobbying qui, hélas, s'est intensifié pendant la crise sanitaire actuelle, mais il faut aussi les mettre face à leur propre fragilité, parce que il faut aussi se rendre compte que la crise ne fait qu'annoncer ou donner le coup d'envoi à une crise économique qui va se manifester dans une récession spectaculaire, et nous ne savons pas si les plateformes qui vont donc désormais vivre leur première récession sont capables de survivre à ça. Il y a des fortes chances qu'on se réveille à la fin de ce cauchemar, même d'un point de vue économique, avec un monde, même d'un point de vue effectivement des acteurs du marché des plateformes, largement reconfiguré. Et donc même s'imaginer et plutôt renvoyer les plateformes à leur propre fragilité. Elles ont besoin pour survivre que nous, en tant que société, reconnaissions leur utilité. Et donc, d'un certain point de vue, et je termine vraiment avec ça, il faudrait aussi qu'elles considèrent, qu'elles envisagent la possibilité de changer et de devenir autre chose, de reconnaître, par exemple, que dans certains cas, elles réalisent ou mettent en place une infrastructure nécessaire au bien public et qu'elles acceptent, d'un certain point de vue, comme certains le disent depuis plusieurs années, de se faire collectiviser. Et de se faire, de se plier effectivement à servir le bien public et pas seulement celui de leurs investisseurs.
Merci beaucoup Philippe Askenazy et Antonio Casilli de nous avoir accordé cet entretien à distance, entretien que nous avons pu réaliser grâce à la magie d'une application. On se quitte avec Goodbye Blue du groupe Bad Bad Not Good. Et demain, nous vous proposons en nouvelle écoute une réflexion sur les communs. Nous serons en compagnie des économistes Benjamin Coriat et Michael Sifaras. Mais d'abord, dans un instant, ce sera l'heure de la Compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange. I'm so out of touch, but I've come around to see that it's not enough to walk away out of sight. I think you have to bluff to say some things, to eat alone with your winning grin. Goodbye, blue. To it, I blew them up. So colorblind, sad to see you go. To end up blue on my VVVV. Did I say it right?